Radio Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les sommaires. Les rebelles de l'AFC M23 multiplient les attaques contre l'opposition de FARDC dans l'est de la RDC. C'est ce que dénonce l'armée congolaise. Devant la presse à Kinshasa, le porte-parole de l'armée congolaise invite les médiateurs américains et qataris à prendre des dispositions pour arrêter ce que l'armée qualifie de provocation. Lancement de la deuxième phase de l'opération d'indemnisation des personnes impactées par le projet Rocade ici à Kinshasa. Le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics indique que cette étape estimée à 4 millions de dollars américains vise le paiement d'au moins 105 personnes. La ville de Kinshasa s'est dotée d'un plan de gestion intégrée des déchets à l'issue d'un échange organisé le 18 novembre entre les autorités urbaines, municipales et divers experts dans le cadre du projet Assainir Kinshasa soutenu par l'ambassade des Pays-Bas en RDC. Pour en parler, nous recevons Melia Bosiki, conseillère principale du gouverneur de Kinshasa. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette grande édition du Journal du Matin. Les forces armées de la RDC et FARDC dénoncent les multiples attaques que les rebelles de l'AFC M23 continuent de perpétrer contre leur position en dépit des accords de Doha et de Washington. Dans une communication faite ce samedi devant la presse à Kinshasa, le porte-parole de l'armée appelle les médiateurs américains et qataris à prendre les dispositions qui s'imposent pour mettre fin à cette situation au risque de pousser les FARDC à répondre à cette provocation. On écoute le général Sylvain Ekengi.
Au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, dénoncer les multiples attaques que l'AFC M23 continue à perpétrer en dépit des accords de Doha et de Washington. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que tous les jours, la coalition AFC M23 continue d'attaquer les positions des forces armées malgré la signature des accords et malgré l'exigence de cessation des hostilités. Et cette attitude va en guerre, expose nos populations aux aléas de la guerre. Et c'est pourquoi les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant la violation du cessez-le-feu, appellent les négociateurs américains et qataris à prendre les dispositions qui s'imposent, puisque on ne peut pas continuer comme ça. Et face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des dispositions qui s'imposent pour répondre à ces provocations.
Pendant ce temps, la police nationale congolaise, ville de Beni au nord Kivu, vient de recevoir des engins roulants du gouvernement congolais. C'est pour faciliter la mobilité des troupes afin de mieux sécuriser la population et ses biens. Il s'agit des 5 Jeeps Land Cruiser qui ont été présentés ce vendredi lors d'une parade spéciale présidée par le commissaire provincial de la police du nord Kivu. Le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo a invité ces éléments à redoubler d'efforts dans leur travail de sécurisation des populations. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Notre hiérarchie, les commissariats généraux, le ministre national de l'Intérieur à travers le commissariat général a doté nos éléments détenus et a mis à notre disposition nos véhicules. Ça, c'est pour sécuriser avec la population et leurs biens. Et c'est pourquoi j'ai insisté. Vous avez constaté qu'avec moi ici, il y a eu la présence de nos bourgmestres pour qu'ils rappellent, pour qu'ils sensibilisent la population, pour que nous puissions tous nous approprier de ces mesures que nous allons prendre, c'est-à-dire le déploiement des policiers, nos patrouilles, pour que nous puissions tous mettre en dehors d'état de nuire les hors-la-loi. Nous faisons notre travail et l'armée, au niveau de la défense, fait son travail. Tous, nous faisons un travail pour que nous puissions récupérer tous les centimètres du territoire de la République démocratique du Congo.
Signalons que, lors de cette parade, le commissaire provincial de la police a également annoncé la période de courtoisie routière qui ira du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026 prochain. humains. Par ailleurs, le collectif des organisations de défense des droits humains dans les territoires de Walungu alerte l'opinion nationale et internationale sur les abus commis par l'AFC M23 contre la population civile dans 4 groupements. Des tueries en cascade chaque fois qu'il y a affrontement dans les territoires de Walungu entre les Wazalendo et l'AFC M23. Les détails avec Richard Junior Kamunga.
Plus de 112 civils, enfants, hommes et femmes ont été lâchement assassinés dans les circonstances post-affrontement. Les collectifs apportent qu'en plus de ces massacres, il y a aussi des femmes violées et des biens de la population civile pillés à grande échelle. Les rapports ajoutent que ces faits sont documentés depuis le mois de mars 2025 dans les groupements de Kanyola, Moulamba, Tubimbi, Kamisimbi et Nyangezi. D'après le même collectif, des organisations de défense des droits humains dans les territoires de Walungu, le cas le plus récent est celui des 2 membres d'une même famille arrêtés à Kanyola jeudi dernier après les affrontements qui ont opposé les Wazalendo au M23. Le collectif alerte l'opinion autant nationale qu'internationale pour que ces 2 personnes détenues injustement soient libérées et remises à leurs familles sains et saufs. Depuis leur arrestation dans leur village du groupement de Kanyola, leurs proches n'ont plus de leurs nouvelles.
L'actualité, c'est aussi la MONUSCO qui a remis vendredi à Bounia un bâtiment destiné à abriter le barreau de l'Ituri ainsi que le bureau de consultation judiciaire et juridique gratuite pour les personnes vulnérables. Les travaux de finition de cet ouvrage ont été financés par la mission onusienne dans le cadre d'un projet à impact rapide. Cette initiative vise à promouvoir un accès équitable à la justice, à renforcer l'état des droits et à contribuer à la restauration de l'autorité de l'État dans la province. Isaac Remoyope, reportage.
Les bâtiments opérationnels depuis vendredi comprend une salle de réunion, les bureaux du président, des salles de consultation, un secrétariat ainsi que des installations sanitaires. Jusqu'ici locataire depuis sa création en Ituri, les barreaux disposent désormais d'un espace qui améliore les conditions de travail des avocats, mais surtout l'accompagnement des personnes vulnérables dans cette zone touchée par les conflits armés, avec comme conséquence la paupérisation de la population. Une action qui vise à promouvoir un accès équitable à la justice. Désiré Baloumé de la section d'appui à la justice de la MONUSCO.
Votre mission revêt également une dimension sociale essentielle, celle de protéger et défendre le plus vulnérable et de contribuer ainsi activement au processus de pacification, de stabilisation et de bien-être de la population civile en Ituri.
Selon le président du barreau de l'Ituri, cet ouvrage est le résultat d'un partenariat avec la MONUSCO pour renforcer les services d'aide juridique, en particulier pour les plus vulnérables. Maître Joseph Keta.
C'est donc une joie immense sur le plan professionnel qu'un barreau digne de son nom puisse être doté d'un bâtiment adéquat. Donc c'est le gage d'assurer l'accès à la justice à tous, surtout aux plus vulnérables.
Plusieurs autres partenaires ont également contribué à la réalisation de ces bâtiments. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Nord Kivu, le programme alimentaire mondial PAM poursuit et renforce la mise en œuvre du projet Chakula Sokoni, entendez, la nourriture au marché, dans le territoire de Masisi, une zone fortement touchée par les déplacements des populations. Une approche qui vise à renforcer la sécurité alimentaire pour environ 5000 familles vulnérables tout en soutenant l'économie locale. Cette nouvelle approche permet aux familles vulnérables d'accéder à la nourriture directement auprès des commerçants locaux grâce à des transferts monétaires électroniques. Denis Lukeso Mapanda nous en parle dans ce reportage.
Grâce au transfert monétaire électronique du PAM, les bénéficiaires achètent désormais les denrées dont ils ont réellement besoin. Le PAM explique que ces mécanismes renforcent non seulement la dignité des familles, mais soutient également l'économie locale en collaborant avec des commerçants partenaires. Pascal Diro, chef de bureau, coordonnateur des zones Est du PAM à Goma, parle de son impact.
Le PAM a l'habitude de donner un certain nombre de denrées alimentaires de base. Ça peut être 4 ou 5 en fonction des contextes et des ressources. Mais ici, on a toute une liste de produits que le PAM va donner à ses différents bénéficiaires. L'impact, j'allais dire d'abord, c'est le sourire justement qu'on observe sur le visage de ces bénéficiaires-là. Cette façon de donner l'assistance augmente la dignité de ces bénéficiaires. Avant, ils avaient juste un nombre limité de vivres. Maintenant, ils ont le choix d'avoir beaucoup plus. Et aussi d'avoir des produits de leur terroir. Les populations mangent les produits cultivés dans leur zone. Maintenant, pour les commerçants, c'est une opportunité de se faire aussi de l'argent. Et quand ils auront cet argent, ils pourront beaucoup plus acheter des produits localement. Et ça augmente la demande de produits et donc ça motive les producteurs à produire davantage.
Cette approche lancée en septembre dernier pourrait, selon les PAM, s'étendre à d'autres zones du Nord Kivu si les ressources et les conditions les permettent.
Le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics a effectué ce samedi une visite d'inspection sur les routes des rocades afin d'échanger avec des propriétaires éligibles à l'indemnisation. Georges Cauchy a réalisé cette tournée au lendemain du lancement de la deuxième phase de l'opération d'indemnisation des personnes impactées par le projet Rocade. Il indique que cette étape, estimée à 4 millions de dollars américains, vise le paiement d'au moins 105 personnes. C'est un reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Au terme de sa tournée, le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics et président de la commission interministérielle en charge d'expropriation s'est réjoui que les travaux de construction de la route des rocades ne connaissent aucun couac. Georges Cauchy exprime ainsi sa satisfaction de voir les populations affectées par ces projets donner leur accord à l'opération d'indemnisation. Tout au long de son périple, depuis l'avenue Njoku jusqu'à Mboudi, ses hauts fonctionnaires de l'État assurent qu'aucune personne affectée ne sera laissée pour compte conformément aux recommandations du chef de l'État. La commission interministérielle en charge d'expropriation aide certaines familles dépourvues de titres à réunir tous les documents requis afin de bénéficier elles aussi de leurs droits. Pour rappel, 99 personnes impactées par les projets rocades ont été indemnisées lors de la première phase. La construction des rocades s'étend sur 72 km visant à désengorger la capitale. Ce projet, financé dans le cadre du projet sino-congolais, est exécuté par les entreprises chinoises CREC 7 et CREC 8 sous la coordination de l'Agence congolaise des grands travaux.
Dans la province de l'Équateur, 71 ports illégaux ont été recensés et fermés à l'exploitation. Un communiqué officiel du gouverneur de la province a ordonné au début de ce mois de novembre la fermeture de tous ces ports. Lancée la semaine dernière, cette opération de fermeture concerne également les ports de Bralima, réputé pour son rôle de l'approvisionnement de la ville de Mbandaka en divers produits alimentaires. Des détails avec Askin Zigbatayoro.
Selon les informations recueillies, tous les propriétaires des ports privés ont été sommés de présenter des documents légaux leur accordant les droits de propriété. À la division provinciale de transport, il a été constaté que le port de Bralima ne dispose d'aucun document légal d'exploitation. C'est la raison pour laquelle ce port a été fermé. D'après le communiqué officiel du gouverneur, un port légal doit détenir trois documents délivrés par l'État, à savoir les titres de concession, les certificats d'homologation et l'agrément du port. Pour le commissariat fluvial de Mbandaka, la fermeture du port Bralima est une mesure conservatoire. Sa réouverture ne pourra intervenir que lorsque Bralima aura déposé les trois documents exigés auprès de la commission mixte chargée de superviser l'opération de la fermeture de port privés illégaux. Entre-temps, la fermeture du port Bralima fait craindre à Mbandaka une crise et une hausse de prix des produits agricoles, lesquels sont régulièrement déchargés dans ce port en provenance de Kinshasa et de différents campements situés le long du fleuve Congo.
Dans la province de Lomami, le cimetière de Bunduki dans la ville de Kabinda est menacé depuis jeudi dernier par les eaux de la rivière Kabondo. Le lit de cette rivière a été déplacé de quelques mètres suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur la ville. Quelques dépouilles mortelles et des cercueils ont été emportés jeudi dernier par les eaux. Après sa visite sur les lieux, le vice-président de l'Assemblée provinciale a tenu d'urgence une réunion avec les vice-gouverneurs pour des solutions durables. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au cours de la visite de ce cimetière, le député provincial Hippolyte Kabango, vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, a fait un constat amer.
Le constat est vraiment amer. Il faut des solutions urgentes. Et apparemment, il y a aussi des petits conflits coutumiers de gestion de ce cimetière ici. Au-delà de ça, il faut essayer d'éviter la déviation de la rivière Kabondo, de remettre sur son lit d'antan et permettre de sauver les tombes qui sont encore restées intactes. On ne mérite pas cette situation. Il faut les corriger tout de suite.
Le vice-président de l'organe délibérant a du coup convoqué une réunion d'urgence. Quelques décisions ont été prises, affirme le vice-gouverneur.
Il faut inviter l'office de route qui est notre service technique. Il doit d'abord aller remettre l'ancien lit de cette rivière-là. Et enfin, nous disons à la population de ne plus enterrer présentement les morts là-bas. Ça, c'est une mesure conservatoire. Nous demandons à la population de ne pas utiliser cette eau-là pour la consommation.
Signalons que certains habitants ont retrouvé les corps des membres de leur famille et d'autres les ont exhumés pour les enterrer à d'autres endroits. Les secouristes de la Croix-Rouge sont mis à contribution pour éviter la propagation des maladies. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Centrafrique, les élections auront lieu fin décembre, mais la mission d'observation de la société civile est déjà à pied d'œuvre depuis plusieurs mois pour suivre l'organisation de ces quadruples scrutins, avec le soutien de l'Union européenne et de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, EISA. Le réseau arc-en-ciel, rassemblant 18 organisations locales, vient de recruter des fact-checkers pour essayer de contrer la prolifération des fausses informations ou des discours de haine dans les contextes préélectoral.
L'invité.
La ville de Kinshasa s'est dotée d'un plan de gestion intégrée des déchets à l'issue d'un échange organisé le 18 novembre entre les autorités urbaines, municipales et divers experts dans le cadre du projet Assainir Kinshasa PASKI, soutenu par l'ambassade des Pays-Bas en RDC. Invité de Radio Kapi, Melia Bosiki, conseillère principale du gouverneur de Kinshasa, explique que ce projet triennal vise à transformer la gestion des déchets en une véritable industrie urbaine à impact. Elle plaide pendant pour le renforcement de la gouvernance, de la coordination interinstitutionnelle et de la redevabilité afin d'impliquer chaque citoyen dans la réussite de ce programme. Melia Bosiki s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Madame Melia Bosiki.
Oui, bonjour.
Vous venez de participer à la session de validation du plan d'assainissement de Kinshasa. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces documents?
La première des choses, c'est que la ville de Kinshasa s'est dotée d'une planification sur la gestion intégrée de ces déchets. Donc des déchets urbains produits par nous-mêmes, donc par les Quinoises et Quinois. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut retenir, c'est que cette planification est basée sur l'économie circulaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas à déchets enfouissement, mais nous réfléchissons sur une chaîne de valeur de comment collecter les déchets, comment faire le tri à la base, comment vendre ces déchets, comment prendre le reste de déchets et le valoriser pour autre chose. On donne une autre vie à ces déchets. C'est une stratégie qui va nous permettre de réduire significativement les déchets tels que vus sur la place publique.
La ville-province de Kinshasa produit environ combien de tonnes de déchets par jour?
Certaines études disent 17 000, d'autres disent 15 000, d'autres disent 12 000. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une mégalopole avec une estimation de près de 20 millions d'habitants et que ça devient une urgence de prendre en considération les différents déchets selon toutes leurs catégories produits dans la ville de Kinshasa.
Vous estimez à combien les coûts de la mise en œuvre de ces plans triennaux?
Tout dépendra de la déclinaison annuel que nous allons faire. C'est même l'enjeu pour lequel nous sommes venus à cet atelier. Un coût estimatif a quand même été proposé. Nous estimons à peu près entre 30 millions à 50 millions le mois pour traiter ce problème.
Bénéficiez-vous de l'appui de certains partenaires pour la mise en œuvre de ces plans?
On espère vraiment le concours des partenaires pour la mise en œuvre de ce plan. Mais pour le moment, comme vous le savez, nous avons les subventions que nous recevons du niveau central, donc du pouvoir central, et aussi ce que les taxes et les impôts que nous captons au niveau de la province. Mais c'est vrai que l'économie circulaire va nous permettre justement d'avoir une vue un peu plus globale. Par exemple, le secteur privé sera très intéressé, surtout le secteur privé qui fait de la valorisation des déchets.
Quels sont les grands défis à relever à l'horizon 2028?
Premier défi, je pense, à mon humble avis, que c'est le changement de mentalité. C'est la sensibilisation de nous tous, pour avoir les bons gestes, pour qu'on arrête de jeter partout, jeter dans les caniveaux, jeter dans les rivières. Toute cette éducation civique doit être prise en compte dans notre population. La deuxième des choses qui marche avec ça, c'est la coercition. Parce que pour qu'on ait ce changement de mentalité, il faut des contraventions, il faut des pénalités, il faut que tout le monde sache qu'on ne jette pas n'importe comment les déchets. Le deuxième axe que moi je trouve très important, ça s'attache aux infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, même lorsque nous interdisons à la population de jeter partout, il lui faut un dispositif qui lui permet de jeter à l'endroit adapté ou adéquat, dans le dispositif adéquat. Et ça, il faut le faire dans la mesure de l'étendue de la ville de Kinshasa. Le troisième axe que je trouve très très important, c'est les infrastructures en termes de centres de transit, les centres de transfert pour d'autres, les centres de tri pour la vente et les centres de valorisation. Aujourd'hui, le modèle d'avoir qu'un seul site comme PASA pour toute la ville de Kinshasa a montré clairement ses limites et il nous faut réfléchir à peu près à 4 à 5 sites de décharge finale pour une ville comme celle de Kinshasa.
En marge de ces projets, au nom de la ville province de Kinshasa, quel est le message que vous lancerez à toute la population kinoise qui vous suit sur la radio de la paix, Radio Kapi?
Une seule chose, c'est de savoir que l'autorité urbaine, donc son excellence Daniel Bumba Lubaki, veut vraiment que dans son mandat de changer la face de la ville de Kinshasa. Et il a mis tout en action pour le rendre réalisable. Et nous attendons juste de la ville de Kinshasa ce soutien, de l'accompagnement de la ville, de croire que Kinshasa et Zobonga n'est pas un slogan, mais vraiment une réalité. Croyez en ça.
Madame Melia Bosiki, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'était notre invité Melia Bosiki qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est ce qui met fin à notre édition du journal Parler, coordonné par Richard Junior Kamunga, supervisé par Jude Mister Bilandan Kumar et mis en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengonsoalo. Ce journal est à retrouver sur toutes nos plateformes digitales ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.